de filles dans mon comic strip.
Bulles à découvrir, une émission qui parle de BD et qui fait...
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait. Ou bien...
Bonjour Hugues.
Bonjour Bernard, je voulais te laisser démarrer.
Voilà.
D'où ce petit moment de flottement, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Voilà, Bulles à découvrir, émission qui vous parle de BD, vous l'avez entendu, et ça tombe bien, c'est bien de BD dont on va parler aujourd'hui. Alors on va commencer par deux albums, Bernard. D'habitude, on ne parle que des albums qu'on reçoit, et puis des fois, t'en achètes.
Bah oui,
libre à toi.
C'est assez rare.
Et donc, tu as acheté les deux premiers tomes d'une série qui vont compter au moins autant que de planètes dans le système solaire, dans notre système solaire. Mm-hmm. Donc, elle s'appelle Mars, la planète rouge, et Jupiter, le berger des astéroïdes. Deux BD sortis chez Glénat en partenariat avec l'Observatoire de Paris, Bernard.
Bah oui.
Voilà, alors on va donc explorer notre système solaire.
Et oui,
on dit comme ça, c'est pas glamour.
Si, ça peut être glamour, surtout si on le fait avec la caution des scientifiques, hein, des astronomes, des radiophysiciens, tout ça, enfin, de toute cette connaissance que nous avons acquise depuis quelques siècles sur les planètes. Et c'est passionnant de voir que on obtient un récit réel de science-fiction et de voyage à travers notre système solaire avec un extraterrestre et des images qui sont conformes à la réalité. Et ça m'a séduit immédiatement. Juste en ouvrant les pages, j'ai dit ça, je veux voir. Quoi.
Je paye pour voir.
Oui, ah oui, j'ai payé pour voir.
Poker.
Ouais.
Alors, parce que on pourrait faire des BD ou des livres pour expliquer le fonctionnement de telle planète. On a beaucoup d'informations de nos jours, on le sait, etc.
On a eu toute la série de Liu Cixin qui était intéressante. Pour.
C'est pas ça que je pensais, parce que justement, on pourrait le faire de façon très didactique. Et là, pour le coup, c'est didactique, sauf qu'il y a un parti pris scénarique.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire. Et ça, c'est peut-être mieux en BD de se faire raconter des histoires que d'avoir des choses basique sur alors Mars.
Voilà, au cœur de ces documents, on a un extraterrestre un peu mystérieux qui parle, mais peu.
Échoué sur la Lune.
Voilà, on ne sait pas ce qu'il fait là. Hein, et bien sûr, il accueille des humains, mais en même temps, on s'observe mutuellement, manifestement.
En fait, il se fait sauver par une mission humaine sur la Lune. Et puis, du coup, alors, peut-être pour leur rendre un petit peu l'appareil, ou peut-être pour d'autres dessins
ne
connaît
pas
encore
trop
bien. En tout cas, il cherche un autre vaisseau sur lequel il y a d'autres copains à lui qui a peut-être été aussi embarqué dans une tempête astrale ou un truc comme ça, on ne sait pas trop. Il les cherche, il ne les trouve pas. Et donc, il va visiter le système solaire, il emmène des astronautes et chercheurs humains, une bande comme ça d'astronautes et de chercheurs, pour aller... leur dire je vais vous donner la chance de pouvoir explorer des planètes que vous n'avez jamais explorées.
Et alors bien sûr pour des astrophysiciens c'est formidable de pouvoir
un vrai cadeau.
Dépasser de toutes nos limites humaines grâce à un extraterrestre dont les capacités de voyage sont très supérieures aux nôtres.
Et de voyage et puis de capacité d'explorer parce que par exemple
on va rentrer carrément dans Jupiter.
Jupiter c'est une planète gazeuse.
On va pénétrer carrément dedans.
Et on pénètre dedans mais il y a il y a des forces telluriques à l'intérieur qui sont telles que normalement on n'a aucune technologie qui nous permettrait, quand bien même on saurait y aller, qui nous permettrait d'y pénétrer, on mourrait instantanément grâce à l'extraterrestre.
Terrestre, on y arrive, mais enfin c'est limite. Hein. Oui. Là aussi, c'est pas gagné fastoche.
Oui, c'est pas
donc,
gagné.
Il y a de l'angoisse, il se passe des choses, on ne maîtrise pas tout. Non, c'est très très bien équilibré.
Alors mine de rien, on découvre plein de choses. On découvre l'existence du mont Olympus sur Mars, qui est haut comme 4 ou 5 fois l'Everest.
C'est 8000 mètres, 6000 mètres.
Non, c'est plus. C'est plus que l'Everest, c'est largement plus. L'Everest est à 8000.
Oui, donc c'est plus.
Des tempêtes, de comment fonctionne la planète avec une espèce de... Alors, de ce que j'imagine être d'un réalisme hallucinant.
Ah oui.
Et donc avec des belles couleurs, enfin il y a des vues sur les planètes qui sont absolument incroyables. Il y a une palette de couleurs là-dedans.
Oui.
Waouh.
Et je pense qu'il y a une combinaison de dessins et de photos réelles.
Et que dire de Jupiter?
Ah oui, Jupiter, c'est magnifique.
Elle est vraiment belle, on dirait. Je sais pas comment dire. Ça me rappelle les billes d'Agathe quand j'étais petit.
Bien sûr.
Et vraiment, on découvre des tas de choses. On découvre. Bon, je l'avais déjà entendu quelque part, la théorie. Alors, comme il y a de la fiction, on vient nous confirmer une théorie qu'on a, que l'arrivée de la vie sur Terre serait venue d'un astéroïde qui aurait tapé Mars, de morceaux de Mars qui seraient partis, qui auraient bombardé la Terre. Or, il y avait de la vie sur Mars.
Voilà.
De l'eau, etc.
Et peut-être nous sommes tous des Martiens.
Peut-être cette insémination qui a permis la création de la vie sur Terre.
Donc nous sommes des Martiens.
Je trouve ce c'est étonnant. Dès qu'on me dit ça,
étonnant. Ouf. Ah oui, on rêve.
Ah oui, oui.
Et puis bon, il faut pas oublier qu'à une époque, Schiaparelli, qui avait observé Mars, avait cru voir des canaux. Et d'où l'idée des Martiens. Et puis quand on a vu de plus près, on s'est rendu compte que c'était pas des canaux, quoi.
Non. C'est vraiment deux BD incroyables. Hein. Oui. Mars et Jupiter, déjà scientifiquement, l'histoire, elle tient la route. Les personnages, on adhère. Ouais. Cet extraterrestre, ça pourrait. Parce que ça a déjà été fait, je citerai personne. Des BD comme ça, où on prend un parti pris avec un extraterrestre qui fait voyager des terriens et puis d'avoir comme ça un prétexte narratif.
Souvent, c'est lourdeau.
Voilà. Et là, le prétexte narratif, t'as l'impression que c'est pas un prétexte narratif, qu'on te raconte une vraie histoire.
Voilà.
Et en même temps, t'as un. Tu as un flot d'informations, de connaissances là-dedans, sûrement survolé, j'en sais rien, et voilà. Mais franchement, moi, pour qui je suis au moment où je parle, c'est dense. Hein.
Ça nous va bien, très dense.
Ouais. Ah, oui, non, c'est vraiment deux très bonnes BD, Bernard. Oui. Voilà, tu as bien fait de les acheter.
Oui, de temps en temps, faut franchir le pas.
Ouais. Allez, on va raconter une histoire avec Fidji, Bernard. Fidji de Kano Gux et Pinchuk chez Delcourt, une histoire d'amitié avec un jeune homme dont on découvre qu'il a un passé, on comprend assez vite et peut-être quelques casseroles, on va le dire comme ça. Bah, mais
c'est un loser quand même.
Mais qu'il a un poste prestigieux dans la banque de beau papa puisqu'il est tombé amoureux et il est en passe d'acheter son appartement en plein Paris. On le voit bien que ça ne le fait pas rêver, mais il s'y prête quand même. Il dit, oui. Voilà, c'est quelqu'un de très raisonnable. Jusqu'à ce que ressurgisse...
Son frère.
Son copain.
C'est pas son frère, d'accord.
C'est son pote, un ami, mais ils étaient comme des frères.
Comme des frères, mais alors, c'est vrai que c'est un mec qui est affligé d'une loose incroyable et qui cherche la merde sans arrêt, quoi.
Ouais. Voilà, et qui retombe là, il dit, ah, mais t'es revenu, je suis revenu... voilà, et du coup, il va l'embarquer, il va tout plaquer, il va
sur
plaquer
des
sa
rêves
copine,
totalement infantiles,
son boulot, sa vie.
Sur des rêves infantiles.
Et puis revenir pour une mystérieux repas ou une mystérieuse aventure du côté de Biarritz où ils ont grandi, où ils faisaient du surf. Et en fait, ils partent sur un road trip complètement déjanté pour aller à cette mystérieuse cérémonie. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et ils partent tous les deux comme ça en se mettant dans des situations de merde.
De merde sans arrêt.
À tel point, c'est peut-être le petit côté ces petites critiques que je ferai à cette BD qu'à des moments, ça paraît trop. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire ces conneries-là, être à ce point-là topé par les flics et t'en sortir, pouvoir repartir.
C'est bagarre, alcool, drogue. À un moment, on se dit bon, si tu cherches la merde, tu vas bien finir par la trouver, quoi.
Mm-hmm. Et voilà, il y a un petit côté descente aux enfers en descendant vers le sud.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, descente aux enfers.
Et voilà, puis en même temps, quelque chose de très initiatique qui, à un moment, m'a commencé à me lasser.
Oui, je comprends ça.
Et puis la fin.
Oui.
Voilà, non, et je ne peux pas en dire plus.
On ne peut pas en dire plus. Après, c'est servi par de très belles images.
Oui.
Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on puisse suivre ça pendant 180 pages. Parce qu'il ne se passe quand même pas énormément de choses. Et on arrive à suivre l'affaire sur 180 pages. Parce qu'on veut nous faire rêver à des aventures un peu simplistes. Et bien, on va jusqu'au bout quand même.
Ouais, on va jusqu'au bout.
J'avoue que j'ai failli lâcher quand même. Hein.
Et que quand tu as vu la fin, tu t'es dit, ah tiens, ça valait peut-être le coup.
Oui.
Parce que la fin, elle est quand même.
Oui.
Voilà, il y a un twist, un vrai de vrai.
Un twist, heureusement. Ouais. Heureusement. Sinon...
Ça s'appelle Fidji, elle est très belle cette BD. Ouais. Ceci dit,
les
lumières.
La couverture est splendide.
La couverture est belle, lumières sont belles.
Ouais.
Et,
très gros travail de lumière.
Oui. Et voilà, bon, on va pas redire ce qu'on a déjà dit. Ouais. Allez, t'en veux de la BD où il se passe rien, mais là, pour le coup, c'est maîtrisé. ça s'appelle Hugo, un conscrit casque bleu de David Senou chez La Boîte à Bulles. Alors, C'est autobiographique.
C'est un témoignage de vie.
Même si le héros n'a pas son nom, etc. Oui. Donc, voilà, mais c'est vraiment, il le dit, hein, il le confesse même, il parle de lui.
Oui.
Lui, c'est un sale con.
oui.
C'est un sale con, c'est un néo-nazi skinhead. Tout
très
ce qu'on
violent.
Il y a plus skinhead à l'aube des années 90.
Pas du tout sympathique.
Et il est militaire. Ouais. Il fait un service, ce qu'on appelait à l'époque un service long. À l'époque, oui, du service militaire, où on choisissait d'être un peu plus longtemps dans l'armée pour voir si ça plaisait. Et on pouvait participer, quand on était en service long, à des opérations extérieures. Et ça tombe bien, on leur demande, est-ce qu'il y en a qui veulent partir en Yougoslavie avec une compagnie de casques bleus.
Voilà.
Donc, soldats de l'ONU chargés de maintenir la paix. Ce n'est pas des soldats qui sont là pour se battre, ce sont des soldats pour s'interposer, les casques bleus. Il n'a pas bien compris la nuance, le petit gars.
Ah ouais, parce que c'est un violent qui veut en découdre.
Lui, il veut en découdre.
Et puis, il n'y a pas moyen d'en découdre.
Oui. Et donc, il part en Yougoslavie avec des gens de sa compagnie, y compris des rebeux avec qui il a eu maille à partir parce que c'est un vrai connard.
Ah oui.
Et
il ne s'en cache pas. Hein.
Non, il ne s'en cache pas. Et,
il est très sincère là-dessus.
Et en fait, c'est le récit, je disais une BD où il ne se passe rien, c'est le récit d'une espèce de déception absolue.
Ah bah,
tu pars faire la guerre et tu te retrouves à faire des marches, à passer d'un camp à l'autre,
voilà,
à te faire punir aussi parce qu'il se fait punir parce qu'il fait des conneries.
Ah
bah, et c'est une espèce de désillusion.
Ah oui, complète.
Hallucinante.
Ah oui, celui qui veut se faire militaire, il lit ça, il va réfléchir à deux fois.
Mm-hmm.
Alors après, est-ce qu'il y a d'amusant, un détail qui semble secondaire, mais qui pour moi ne l'est pas, c'est qu'il est parfois en tel désarroi qu'il se décorpore. Alors ça, c'est étonnant parce que ça se veut une BD très réaliste. Et il dit, bah, écoutez, je ne m'en vante pas, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des moments, je m'allonge et mon âme ou quelque chose de moi s'en va, je vois mon corps dessous, etc. Et à plusieurs reprises, on nous montre cette affaire-là. Donc je trouve que ça donne un détail très, très comment dire, crédible sur quelque chose qui est un peu foutraque quand même.
Ouais, alors David Senou, oui, parce que tu vois que c'est foutraque, oui. David Senou, il le dit, et puis j'ai lu quelques interviews de lui. Voilà, enfin, c'était un jeune qui venait de quartiers très difficiles, où son seule possibilité d'avoir des relations, et puis etc. C'était en passant par ces réseaux-là, je crois, côté de Grenoble, et il a complètement vrillé.
Ouais.
Il avait 20 ans. Et cette BD, elle raconte ça aussi. Comment on peut changer.
Le ton est très juste, et tu le lis, tu te laisses embarquer. Moi, je l'ai lu, je crois, d'une traite.
Oui. Et vraiment, c'est pas de la rédemption non plus, c'est de dire...
Ah non, il n'y a pas de rédemption.
On peut ne pas être la même personne à 20 ans qu'à 35.
Oui.
Et c'est comme ça.
Oui. Ah non, c'est pas un récit irénique du tout. Hein.
Ouais. Ah oui.
Ni moralisateur.
Ah, du tout.
Ah ouais.
Et c'est pour ça que c'est très juste, très original aussi, quoi.
Ouais.
Et voilà. Et pourtant,
c'est,
il se passe...
C'est une BD utile, ça, voilà.
Oui. Et pourtant, il ne se passe rien.
Et il ne se passe rien. Voilà.
Voilà
une BD utile, étrange, une sorte d'ovni, parce que souvent dans les BD, on veut nous dispatcher une info ou une leçon, et là, il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas.
Ouais, c'est étonnant. Hein.
C'est une BD
étrange.
Formidable.
Oui, étrange.
Voilà. Non, formidable.
Oui, formidable.
Formidable.
Formidable, et oui, bien
formidable.
Sûr. Alors, voilà,
je fais ma transition avec Formidable, une BD sortie chez Casterman de Dorothée de Montfred, Hervé Bourris, et Franck Bourgeron, formidable, pour qui a vu les Guignols dans les années 90, vous aurez reconnu Jack Lang. C'est une BD sur les années Jack Lang, entre 1981 et 1992, c'est-à-dire toutes ces années où il a squatté le ministère de la Culture.
Oh bah, squatté.
C'est
pas un mot juste, squatté.
Non, mais squatté parce qu'il n'a jamais quitté. C'est rare, autant de longévité dans un ministère.
Mais il a été compétent.
Oui. Ce que dit la BD, c'est que c'est pas que de la compétence quand même.
Voilà.
Tout ça, ça nous raconte Jack Lang. Jack Lang, dont on rappelle qu'il a été ministre de la Culture, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, ministre de la Culture de François Mitterrand. Encore aujourd'hui, il occupe encore des postes puisqu'il dirige l'Institut du Monde Arabe.
Hein. Oui, il est toujours présent.
Il est toujours là, Jack Lang.
Il
a créé la Fête de la Musique. Ouais. Il a institué le Prix Unique du Livre. Il a
sauvé le livre.
C'est la pyramide du Louvre, c'est sous lui qu'elle a été inaugurée, les colonnes de Buren, l'éclosion des festivals en France, etc. Enfin, ça a été un ministre
et
de la
beaucoup
culture.
D'autres choses qui sont nommées dans cet album que t'as oublié, que j'ai oublié, mais la liste est longue, il y a un travail de fou quand même.
Oui.
C'est ça qui est frappant dans ce livre, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est tourné les pouces dans son bureau, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a été sur le terrain et qui avait des choses à faire, qui avait des idées.
Déjà parce qu'il dirigeait un théâtre à Nancy à la base. Moi, je savais pas ça dans les années 70. Repéré par Mitterrand et il s'est retrouvé dans la campagne de 81 en devenant un fidèle et très directement nommé ministre de la Culture. Et cette BD, elle raconte tout ça.
Tout ça, oui.
Et elle raconte des complexités. Alors, c'est rigolo parce que les trucs biographiques deviennent assez rapidement agiographiques. C'est compliqué parce qu'en plus, là, les auteurs se sont appuyés sur des témoignages directs de Jack Lang qui l'ont interviewé. Donc normalement, tout est beau, tout est gentil.
Et ils essayent de les gratigner.
Ils essayent de ne pas l'être. Et même eux, ils essayent de se mettre en scène en train de dire on essaye, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ose, etc.
Et oui, voilà.
C'est très intéressant. Alors parce que Jack Lang, il a quand même quelques casseroles, alors y compris la paternité de certaines choses qu'il s'est attribuées et que, dont on voit que bon, c'est un peu plus compliqué que ça, ou des choses qu'il a inaugurées mais qui en fait avaient été pensées et financées sous Giscard.
Bien sûr.
Voilà, mais qu'il a dit c'est moi.
Ils le font tous.
Oui, mais lui il l'a fait quand même avec maestria, quand même. Oui, hein. On va pas se mentir. Ouais. Jusqu'à la fête de la musique. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Mais il y a un petit truc qui est sous-jacent tout le temps, parce que il y a eu des bruits comme quoi Jack Lang, il aimait, il avait un goût pour les enfants.
Ah oui, d'accord.
Et oui, et toute la BD ils l'ont, en disant
oui.
Est-ce qu'on va pouvoir lui poser
est-ce
le sujet qui fâche ? Est-ce qu'on va pouvoir lui poser cette question ? Est-ce qu'on va pouvoir lui en parler ? Et voilà. Donc bon, il s'avère que cette histoire-là, mais ça arrivait bien après, était une vraie une cabale contre lui, etc.
Après, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est la complexité de la relation avec Mitterrand. Ils étaient proches, mais enfin, c'était pas copain-copain.
Ça pouvait tirailler, ouais.
Ouais, ça pouvait tirailler. Hein. Mitterrand se laissait pas manipuler comme ça. Bon.
Et Jack Lang non plus.
Et Jack Lang non plus. Et deuxième chose qui m'a étonné dans l'histoire et que j'avais pas perçu, c'est qu'à un moment, de façon tout à fait débonnaire, il dit « Oui, à un moment, j'aurais pu me positionner pour être président de la République. Ça aurait pas été très compliqué. Et je pense que j'aurais été élu. » Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais perçue. Alors, est-ce que c'est un surcroît de confiance ou d'orgueil de sa part ? Il le dit de façon très détachée, débonnaire, même dans cet album. Bon, voilà.
Donc, il raconte aussi ses désaccords. Et voilà, c'est très, très bien. Il y a aussi quelque chose qui est raconté dedans, qui est l'importance de sa femme. Alors,
c'est vrai.
Pareil pour les moins jeunes d'entre vous, on avait au Guignol, il parlait tout le temps de Monique. Mais vraiment, il y avait un duo, Jack et Monique Lang, qui travaillait vraiment
très cher.
Alors, Jack Lang était mis en avant, mais elle avait son bureau au ministère, elle travaillait énormément.
Oui. C'est un travail colossal ce qui a été fait.
Il y avait il faisait aussi régner une espèce de folie, visiblement, selon les. Ça dansait en salle de cantine.
Ah oui,
c'était une petite parenthèse dans la vie de la République.
Enfin, il y a une page où on montre la totalité des réalisations et c'est impressionnant quand même.
Voilà, pas raconter comme ça quelqu'un qui a été un personnage politique important sans tomber dans la géographie, sans tomber dans le documentaire pur, etc. Franchement, c'est rare. Et là, avec celle-là, ils y arrivent bien.
Ouais, ils y arrivent en sachant qu'ils sont pas loin de déraper quand même.
Oui. Mais ils le mettent en scène aussi.
Ils le mettent en scène.
Ils le confessent dans la BD. Je suis même pas sûr que cette BD elle plaise à Jack Lang quand il la lit.
Pas sûr, oui.
Tu vois.
Oui.
Et parce que voilà, ils se disent on est en face de lui, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Est-ce qu'on ose lui poser des questions ?
Je pense qu'il y a un décalage de maturité entre Jack Lang et les auteurs.
Oui, aussi.
Tout simplement.
Mais ils le disent.
Ouais.
Et moi, cette transparence-là, elle me plaît beaucoup.
Oui, c'est plaisant, c'est vrai.
Ouais. Formidable chez Casterman, donc
à lire, hein, vraiment.
Alors Dorothée de Monfred, Hervé Bourris et Franck Bourgeron, super boulot et tellement inattendu, je l'ai prise du bout des doigts.
Hein.
J'ai vraiment toujours des problèmes avec ce genre de BD et là,
gêné, je suis rentré dedans.
Ouais. Allez, BD scénarisée par Elie Chouraki avec Laetitia Depedri au dessin, ça s'appelle Le Héros du Louvre, tome 3. C'est une série terminée en 3 tomes, histoire vraie.
Il faut dire que le triptyque est génial.
Oui, le triptyque est génial. Ça raconte l'histoire
d'or.
Père d'Elie Chouraki, qui, homme de théâtre et juif par ailleurs, son père était gardien au Louvre et s'est fait confier au moment de la débâcle de 40 tout un lot de tableaux de maître pour les mettre à l'abri. Alors, ce n'était pas tous les tableaux du Louvre, mais il y a plusieurs camions qui sont partis comme ça.
Et dedans, il y a un Léonard de Vinci déjà.
Ouais. Mission périlleuse au combien.
Ultra périlleuse.
Et parce qu'en plus, il fallait s'en sortir en étant juif dans cette France-là, au moment où les Allemands dépassent la ligne, au moment où les gens qui sont censés t'accueillir sont en fait des gens qui sont...
Qui vont te trahir.
Qui vont te trahir parce qu'ils veulent mettre la main quand même sur des tableaux qui ont des valeurs...
Ah, ils ont été trahis à plusieurs reprises.
Incroyables. Et comment s'en sortir? Comment ne jamais perdre de vue ta mission initiale qui est... de sauver les tableaux du Louvre
et sauver sa famille aussi.
Et sauver sa famille parce que le trajet se fait en famille. Trois tomes haletants, tellement humain, tellement bien fait.
Alors j'adore la fin parce qu'à la fin il revient, donc la guerre est terminée. Oui. Il ramène les tableaux et le conservateur lui dit mais qu'est-ce que vous voulez pour ce que vous avez fait, et il lui dit tout ce que je veux moi c'est retrouver mon boulot. Il lui dit mais évidemment que vous allez retrouver votre boulot, évidemment. Et il lui dit ah, merci monsieur le conservateur. Il dit mais non, on m'appelait pas monsieur le conservateur, appelez-moi Albert, enfin je sais plus son nom.
Exact.
Parce qu'il est tellement plein de reconnaissance pour ce qui a été fait de façon totalement héroïque. J'adore, j'en avais les larmes aux yeux quand il
c'est
lui dit
ça. C'est vrai qu'il y a un côté très émouvant.
Magnifique. Et alors ce qu'il y a de très beau, c'est que tous les autres camions aussi ont rempli leur mission. C'est magnifique, c'est pas que lui.
Le Louvre a rien perdu.
Et le Louvre n'a rien perdu, c'est ce qu'ils disent. Ils disent il y avait 7000 pièces ou 6200, enfin je sais plus, et répartis en plusieurs camions, tous les camions sont revenus intacts. Rien n'a été perdu, c'est fabuleux.
Ça s'appelle Le Héros du Louvre, série terminée en trois tomes chez Glénat.
À lire absolument, trois tomes géniaux. Et Dieu sait que avec le Louvre, j'ai tendance à pas être tendre parce que c'est facile quand tu as des trésors de faire des BD à partir de ces trésors, mais là, c'est génial.
Allez, on va faire un tour aux États-Unis, Bernard. Delta Blues Café. Ah non, j'y vais pas trop parce que je sais même pas si je l'ai lu, moi.
Ah, mais c'est de la musique, il faut que tu le lises.
Bon, on en parle
allez,
plus
on
tard.
On en reparlera, oui.
San Francisco 1906, histoire policière pendant un événement important dans l'histoire des États-Unis, mon cher Bernard, qui est le grand tremblement de terre de San Francisco qui a dévasté la ville en 1906 et fait des milliers de morts.
Avec Caruso, en grande star dans l'histoire.
Qui était venu pour jouer...
Pour chanter, et puis il a été rappelé 7 fois, 9 fois, 11 fois, enfin c'est d'une folie totale. Et il est pris en otage par la mafia pour trimballer un tableau de valeur. Et sauf que ça se passe mal pour des tas de raisons. Bon, enfin bref, ça dérape. Et donc, un des chefs-d'œuvre de Klimt qui parle de Judith et Holoferne, Judith qui, dans la Bible, tue le Holoferne en couchant avec lui, fait l'objet de trois tableaux de la part de Klimt, et c'est un de ces trois tableaux. Et là, ça va être un triptyque, bien sûr, puisque c'est trois histoires autour de ce tableau.
Mm-hmm.
Voilà. Beaucoup d'action et sur fond documenté d'ailleurs du tremblement de terre.
Tremblement de terre qui devient
un acteur.
Un acteur
de
narratif, en tout cas, oui. Voilà.
Alors c'est une histoire dans la grande histoire ou la grande histoire illustrée par une petite, enfin peu importe, mais c'est tout à fait intéressant parce qu'on découvre plus qu'une simple histoire de voleurs et de tableaux.
Ouais. Ça s'appelle San Francisco 1906. Les
très, très bien fait.
Les trois Judith chez Grand Angle.
Voilà.
Ce sera en trois tomes.
Oui.
Et d'ores et déjà annoncé, le premier est largement prometteur. Voilà.
Alors, toujours chez Grand Angle, on a Whisky San à lire absolument sur un japonais qui veut créer le premier whisky japonais. Et c'est une histoire de fou. Réelle. En plus, elle est réelle. Hein. On a l'arrivée. Et les whisky japonais sont montés en telle qualité de gamme qu'ils ont obtenu la reconnaissance de l'Angleterre. Et c'est des faits réels. Quoi. C'est étonnant. C'est à lire absolument.
Mais là, on en est à raconter quand même beaucoup la genèse. C'est-à-dire un héritier d'une production
de saké
au Japon qui devient la honte de sa famille.
Voilà.
Parce qu'il décide de se lancer à faire du whisky.
Et il va très loin, il va jusqu'en Écosse pour voir comment on fait le whisky.
Il va jusqu'en Écosse en prétextant d'aller faire ses études. Il va étudier les maltes, etc. Et quand il annonce à sa famille qu'il va rester là-bas parce qu'il va... bosser pour un producteur de whisky et apprendre, et etc. Mais c'est le côté très corseté de la société japonaise qui vient le percuter de plein fouet. le pauvre.
Le récit est remarquable sur tous les plans.
Je trouve qu'il y a quelque chose, parce que très franchement, moi, tu m'aurais dit demain, tu vas lire une BD de 140 pages sur le whisky japonais.
Moi, j'allais te dire hors de question.
Comment te dire sans doute pas.
Et du coup, ça m'a donné envie d'acheter du whisky japonais.
Ah ouais.
Je vais trouver ça.
Pas jusque là, mais.
Je vais faire le pas.
Mais par contre. Voilà, parce que lui, il a quand même aussi une certaine épaisseur. Hein,
c'est un nez parfait.
Le personnage.
C'est un nez
oui,
absolu.
Il a ça aussi.
Il a un nez absolu, hein, quand même. C'est pareil. Hein. Mm-hmm. Tout le monde ne l'a pas.
Et puis, tu as vraiment cette dimension de cette société japonaise, oui. Cette complexité.
Très complexe.
À évoluer là-dedans.
Corseté aussi. Hein.
Et de tous les codes auxquels il faut se comment on dit ça
côtoyer, respecter.
Oui, il faut respecter. Ouais. Voilà,
c'est dur.
C'est compliqué.
Ouais. Ah non, mais c'est un régal, c'est à lire absolument. Whisky Sun, étonnant, très étonnant.
Chez Grand Angle, et puis à offrir, hein, si vous avez un tonton, un cousin,
qui aime le whisky,
un beau-frère qui aime le whisky, franchement, voilà, parce que ça raconte aussi beaucoup de choses du whisky.
Oui, c'est comme le film La Part des Anges, c'est à lire absolument.
Oui. Donc ça fait un joli cadeau. Je vous le mets. Si vous avez une cadeau liste là sur votre téléphone, il y en a qui ont ça.
Mettez une petite fiasque de
whisky japonais.
De whisky japonais à côté, ouais.
Selon le degré, ça s'appelle Whisky San, San et Saen, hein, de Rodin, Alcante et Grandet, chez Grand Angle. Et voilà, en un tome, donc en plus, histoire terminée.
Excellent tome.
Ça mange pas de pain, boit du whisky.
Ouais.
Voilà. Simone de Beauvoir, Je veux tout de la vie de Julia Corbic et Julia Bernard. Bernard, on avait déjà évoqué Simone de Beauvoir avec une BD où on racontait son escapade américaine. Mmh. Et
qu'on retrouve là
parce que là forcément ça y est, mais de façon plus succincte, puisque ça, on raconte, c'est une biographie, encore une, tiens, biographie, on a pu le mettre avec Jack Lang, de Simone de Beauvoir.
Nécessaire, très nécessaire, parce que Simone de Beauvoir souffre d'être toujours vécue dans l'ombre de Sartre, et là, bon, ben, Sartre est présent bien sûr, mais il prend pas toute la place, c'est elle qui prend toute la lumière, et c'est tout l'avantage scénarique de cette biographie. On s'intéresse vraiment à elle et pas que à Sartre.
Et pas que à Sartre. Alors le Prisme, c'est une jeune autrice qui vient l'interroger chez elle, qui fait des séances comme ça d'interview, voilà, où elle se raconte, Simone de Beauvoir, hein, elle est morte dans les années 80, si je ne m'abuse, Bernard. Et donc elle raconte à travers sa vie la nature de ses engagements depuis qu'elle est petite, de la conscience qu'elle a eue du besoin de s'affranchir.
Et puis cette conscience lente que toute la société est au service des hommes et pas des femmes, ça lui arrive pas du jour au lendemain, c'est un long cheminement.
Ça raconte aussi à quel point le deuxième sexe est loin d'être à la fois la seule œuvre et à la fois le seul moteur de pensée qu'elle ait pu avoir.
Ah oui,
c'est tout. Quelqu'un qui a travaillé sur un nombre incroyable de choses,
sujet,
Simone de Beauvoir, que souvent on restreint au féminisme.
Bien sûr.
C'était beaucoup plus large que ça. Oui. Et c'est à ce titre-là que quelque part il y a quelque chose d'injuste avec Sartre. C'est qu'elle est cantonnée à ça.
Elle est cantonnée à ça, c'est dommage. C'est une biographie.
J'irais pas dire qu'elle était plus brillante que Sartre, parce qu'on fait pas des concours, mais il y a un côté comme ça.
Non, elle le dit à un moment, je sortirai pas avec un homme qui serait moins brillant que moi, et donc elle trouve Sartre. Donc quelque part, c'est reconnaître qu'il a une dimension supérieure à elle.
Au moins égale.
Elle le dit, au moins égale, oui.
Au moins égale.
Oui, oui.
Mais peut-être que d'un regard extérieur.
Non, mais elle a été soufflée par ce mec quand même, faut le dire.
Ça raconte de façon très efficace, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que la BD est un peu épaisse, mais pas longue, pas trop Bernard, pas trop pleine de texte.
Il n'y a qu'un défaut.
Vas-y.
Le nez.
Oui,
les nez sont mal dessinés. Le dessinateur, c'est pas s'y prendre avec les nez, et ça se voit même sur la couverture.
Les nez, les bouches et les visages. Hein, moi,
ça se voit sur la couverture. Ce nez, ça ne fonctionne pas.
Oui.
Quel dommage.
Un nez de Monsieur Patate.
Mais ça ne va pas, c'est dommage. C'est bon, c'est un détail dérisoire dans un ensemble.
Disons que là, c'est clairement une BD qui s'apprécie pour ce qu'elle raconte et la façon dont elle le raconte.
Oui.
Peut-être un peu moins sur la mise en forme, mais c'est dommage. Mais
dommage.
On passe outre. Hein.
Oui.
On passe outre. On passe
c'est
assez
vrai
outre.
Début,
comme tu l'as dit, ça fait partie des BD nécessaires.
Oui, nécessaires.
Voilà. comprendre cette pensée-là. Beaucoup de gens se réclament de Simone de Beauvoir.
Bien sûr.
Des fois, sans trop savoir pourquoi aussi. Ouais. Et c'est vrai que là, ça fait une porte d'entrée assez sympa.
On voit que c'est un mental, une bosseuse, quelqu'un qui a envie de creuser, quoi. C'est une creuseuse, voilà.
Voilà. Et puis, c'est pas non plus une femme austère. Parce que souvent, ce qu'on ramène à Simone de Beauvoir, c'est une forme d'austérité.
Pas du tout.
Et non, c'est pas quelqu'un d'austère.
Non,
c'est
du tout.
Quelqu'un
qui joue de la vie. Elle accepte le pacte que lui propose Jean-Paul Sartre sur l'infidélité, quand même.
Qui, du coup, n'en est pas une sur cette liberté.
Voilà.
Et à la fois, cet amour.
Bah oui, et à la fois, cet amour, bien sûr. Oui. Non, tout y est là-dedans.
Simone de Beauvoir, Je veux tout de la vie. Voilà, ça résume tout ça chez Steinkiss. Enfin, franchement, allez-y, porte d'entrée sur,
très
Simone,
bon boulot, de toute façon.
Sur Simone de Beauvoir. Ouais. C'est chouette. C'est une bonne BD. On vous a parlé excellent. De beaucoup de bonnes BD aujourd'hui.
Oui,
outre
de BD.
Simone
héros
de Beauvoir,
Louvre,
la série Le héros du Louvre, Courez-y.
Ah, oui.
Whisky San, donc.
Bon.
Et à offrir. Je vous le dis, à offrir. Vous cherchez des fois des cadeaux. À offrir si vous connaissez des gens qui aiment le whisky.
Hugo à lire, absolument.
Formidable, la biographie de Jack Lang, biographie documentée et à la fois critique de Jack Lang chez Casterman. Hugo, chez La Boîte à Bulles, ce témoignage sans concession sur soi-même. Mais quelle classe, quoi.
Quelle classe.
Et puis ces deux premières BD, il y en aura d'autres autour des planètes de notre système solaire, Mars et Jupiter chez Glénat.
On attend les autres.
Incroyable, on vous en a parlé en début d'émission, on en reparle.
Ça c'est une émission de BD de très grande qualité.
L'émission
là,
peut pas
peux la faire tourner.
L'émission on peut pas préjuger, mais les BD.
Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on a des BD moyennes, mais là c'est pratiquement que des excellentes, c'est vrai.
Ouais. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, Bernard, pour un nouveau numéro de Bulles à découvrir, et à tout bientôt.
Et à tout bientôt, comme tu dis.
Avec une voix.
Shabam!